Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour une série d'émissions sur un thème très intéressant. La réincarnation, une grâce de la vie. Où mène le voyage de mon âme ? Cette série reprend le contenu de différents enseignements donnés par la prophétesse instructrice et messagère de Dieu à notre époque. Dans l'émission précédente, nous avons appris que notre être véritable, divin, s'est lui-même chargé et est devenu ce qu'on appelle une âme. Nous avons également appris que nous décidons nous-mêmes de notre vie. Ce qui vient à nous, c'est toujours ce que nous portons en nous de positif et de négatif. Nos sentiments, nos pensées, nos paroles et nos actes. Car aucune énergie ne se perd. Cependant, Dieu est amour absolu et il nous aide à reconnaître à temps ce que nous avons enregistré et à le régler, à le mettre en ordre. Aujourd'hui, nous en apprendrons davantage sur cet aspect essentiel ainsi que sur la vie de l'âme dans l'au-delà et jetterons également un regard critique sur l'enseignement de l'Église. Nous commençons par un passage sur le thème « Ce qui m'irrite chez mon prochain se trouve la plupart du temps également en moi ». Nous savons que toute réaction est précédée d'une action. La loi de cause à effet, qu'on appelle également la loi des semailles et des récoltes, est basée sur cette réalité. Il se peut, par exemple, que nous nous énervions contre une personne que nous ne connaissons même pas. Nous croisons un passant dans la rue. Nous le regardons et il nous énerve. Pour quelle raison ? Il est possible que nous croisions 10 personnes en les regardant dans les yeux sans qu'aucune réaction ne se déclenche en nous. Mais soudain, la 11e nous énerve, bien que nous ne la connaissions pas. Nous dévalorisons cette personne en pensée ou bien, par exemple, un sentiment de jalousie monte en nous.
Que nous enseigne la loi de la réincarnation ?
Toute réaction est précédée d'une action. Puisque nous sommes ici en présence d'une réaction, il y a forcément eu une action à un moment donné. Cette personne a mis en mouvement quelque chose qui est en nous. Il peut s'agir de préjugés ou d'autres pensées négatives que d'autres passants n'ont pas fait vibrer en nous. Pourquoi nous énervons-nous précisément sur ce 11e passant? C'est ce qu'on appelle l'énergie du jour, qui nous dit « Tu devrais mettre en ordre intérieurement les pensées négatives que tu as eues envers cette personne. » Cela ne veut pas dire pour autant que nous devrions aller vers elle pour lui en faire part. Nous devrions plutôt accepter intérieurement que l'énergie du jour nous a montré différentes choses et regarder de plus près ce qui nous a tellement énervés, afin de reconnaître que nous faisons partie de cet énervement. Nous nous sommes peut-être comportés par le passé de manière identique ou semblable, que ce soit en pensée, en parole ou en acte, pas forcément envers elle, mais envers d'autres. Pourquoi est-il en fait si important de ne pas faire part à notre prochain de nos pensées négatives à son égard ? Voici la réponse donnée dans l'enseignement. La plupart du temps, notre prochain ne ressent pas ce que nous pensons. Il l'ignore. Si nous lui en parlions, nos paroles déclencheraient alors en lui toute une chaîne de pensées qui ne serait bonne ni pour lui ni pour nous. Confions-nous plutôt au Christ qui agit autant en nous-mêmes que dans notre prochain. Nous avons la possibilité de mettre en ordre ces pensées négatives en nous en repentant, en demandant pardon au plus profond de nous-mêmes et en nous efforçant de ne plus cultiver de telles pensées. Si de tels aspects se représentent malgré tout, il nous faudra de nouveau y réfléchir. Toutefois, si nous nous en défaisons progressivement, notre âme s'illumine peu à peu et nous sortons de ce qu'on appelle la roue de la réincarnation. afin de poursuivre notre chemin de retour dans des domaines plus lumineux, de substances plus fines.
Il s'agit donc bien d'un cheminement très concret qui nous permet de revenir vers notre Père céleste. Plus loin dans le texte de l'enseignement, il est dit « Ces connaissances offertes par le Dieu Père-Mère à ses enfants, par amour pour eux, conduisent à la délivrance. À quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui si de nombreuses personnes avaient eu connaissance de cet enseignement et l'avaient mis en pratique au quotidien? Les êtres humains auraient des valeurs morales élevées, des valeurs spirituelles, ils auraient plus de clarté et vivraient plus consciemment. Or, au lieu de devenir pacifique, l'être humain est devenu brutal et belliqueux, se préoccupant uniquement de ses propres intérêts. Rares sont ceux qui sont ouverts à leur prochain. Nous subissons aujourd'hui sur Terre la récolte de ce que nous avons semé. L'être divin, au plus profond de nous, vient en réalité de l'existence éternelle et de la famille spirituelle de la grande unité éternelle. Cependant, nous, les êtres humains, nous n'avons pas accepté cette fraternité. Tout le monde est contre tout le monde et chacun cherche à profiter de son prochain. Peut-être dirons-nous, moi, je ne suis pas contre mon prochain. Nous devrions cependant nous interroger sur la véritable teneur de nos pensées. Ne sont-elles pas quand même en partie contre notre prochain? N'oublions pas que les pensées sont des énergies. Les pensées sont des forces qui se gravent dans notre âme. Et cette gravure va décider de l'action de la loi des semailles et des récoltes. Nous devenons ce que nous gravons dans notre âme et celle-ci ramène ses aspects dans chaque nouvelle incarnation jusqu'à ce que nous ayons mis en ordre cette gravure de notre nature humaine, ses aspects pécheurs. Si nous le faisons, l'être spirituel peut progressivement émerger en nous et nous pouvons faire les prochains pas qui nous rapprochent du royaume éternel de Dieu.
De nombreuses personnes se demandent pourquoi Dieu n'intervient pas. La réponse donnée dans cet enseignement sur la réincarnation est la suivante. Dieu nous a donné le libre arbitre. Comment, dans ce cas, pourrait-il intervenir dans notre volonté de nature humaine, notre entêtement, notre méchanceté et les infractions que nous commettons contre ces lois? C'est notre volonté qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi il n'intervient pas. Cependant, Dieu est miséricordieux et il nous donne la possibilité de nous rapprocher de la loi éternelle de l'amour, de l'unité et de la liberté. Ceci si nous mettons en ordre nos aspects négatifs. Si nous regardons l'ensemble des grands événements cosmiques, nous constatons que d'une certaine manière, Dieu est bien intervenu, pas dans la loi de cause à effet, mais il nous a envoyé son Fils qui nous a apporté la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? C'est la lumière qui est dans l'âme pour la protéger, afin qu'elle ne tombe pas toujours plus bas jusqu'à se dissoudre, tel que cela est parfois enseigné. Par son acte de rédemption, Jésus, le Christ, a apporté à chaque âme une protection qui lui garantit de pouvoir suivre le chemin qui ramène à la maison du Père. Grâce à cette protection du Christ de Dieu, à sa lumière dans notre âme, plus aucune âme ne peut être dissoute. Un jour ou l'autre, lorsque nous nous décidons à nous mettre en route, il nous reconduit à la maison du Père. Puisque le Christ a apporté la rédemption, comment la damnation éternelle pourrait-elle exister? Celui qui reconnaît l'existence de la réincarnation accepte également la loi de la nature et la loi des semailles et des récoltes. Il sait également, nous n'en prendrons jamais suffisamment conscience, que la grâce offerte par Dieu à l'âme est la possibilité qu'elle a de revenir plusieurs fois sur terre pour régler ce dont elle s'est chargée au cours d'incarnations antérieures. Pour y parvenir, elle a reçu les commandements de Dieu et l'enseignement de Jésus, le Christ, qui lui permettent de se libérer afin d'être à nouveau reliée avec le « donner et recevoir », le mouvement de la vie que les êtres spirituels purs portent en eux. Mais qu'ont fait les institutions ecclésiastiques de cette grâce de Dieu, de son amour absolu pour ses enfants? Elles l'ont transformé en son contraire le plus flagrant, en le remplaçant par l'enseignement de la damnation éternelle. Elles se sont ainsi chargées d'une faute incommensurable. Une question se pose : combien de souffrances auraient pu être épargnées à l'humanité si les êtres humains en avaient eu connaissance ?
Eh oui, pourquoi l'Église nie-t-elle en fait la réincarnation ? Une réponse à cette question se trouve également dans l'enseignement que nous lisons aujourd'hui. C'est en fait logique. En effet, si les institutions ecclésiastiques acceptaient la pensée de la réincarnation, tout leur édifice dogmatique, un véritable château de cartes, s'écroulerait. Car la réincarnation est une grâce de Dieu. La réincarnation exclut aussi bien la damnation éternelle qu'un Dieu qui punit. Elle donne à l'âme la chance de se libérer de ses charges. Peut-être est-ce justement ce que les Églises ne veulent pas. Elles ne veulent peut-être pas de cette possibilité que Dieu offre aux êtres humains pour devenir libres. Ce qu'elles veulent, dans tous les cas, c'est garder la mainmise sur les âmes. Les dogmes et les préceptes de l'Église enferment l'âme dans laquelle vit l'étincelle de Dieu, l'enferme dans un carcan empêchant l'enfant de Dieu de se tourner directement vers son Père éternel. Ce sont précisément ces barrières dogmatiques qui ont permis à l'Église de faire disparaître l'enseignement de la réincarnation qui faisait partie du premier christianisme.
Le passage suivant a pour titre « Dieu offre la liberté, l'Église inculque la contrainte ». On peut compter parmi le savoir fondamental de l'humanité que Dieu est miséricordieux, qu'il respecte notre liberté, mais également qu'il ne cesse de nous rappeler que nous pouvons toujours nous tourner vers lui. Cependant, cette idée fondamentale de liberté a été niée par les dogmes des Églises qui l'ont remplacé par un système basé sur la peur. L'être humain, alors effrayé par un Dieu qui soi-disant punit, se tourne vers l'Église et non vers Jésus, le Christ, qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai ». Il va sans dire que l'Église, au bout du compte, ne soulage personne. Seul Jésus, le Christ, soulage l'âme et l'être humain grâce à la force de la vie. Les commandements divins et les enseignements de Jésus, du Christ, non seulement ne plaident pas en faveur de ses préceptes, des traditions et de toute la doctrine des Églises institutionnelles, mais ils s'y opposent totalement. L'Église tient un langage de contrainte et parle de damnation éternelle. Dieu, lui, a donné les commandements qui sont des propositions. Il nous laisse la liberté de décision. Les enseignements de Jésus, le Christ, sont une main tendue, une aide toujours présente que nous pouvons accepter à tout moment et en toute liberté.
À l'inverse, les dogmes des Églises sont des contraintes. Or, le Dieu de la liberté ne connaît pas la contrainte. Le sermon sur la montagne de Jésus ne contient pas non plus la moindre contrainte, et encore moins une quelconque menace. Pendant des siècles, les autorités ecclésiastiques ont dénaturé le véritable enseignement de Jésus de Nazareth, qu'elles ont brouillé et rendu obscur. Elles en ont aussi dissimulé la portée et la profondeur. Et c'est pour cette raison que Dieu est intervenu une nouvelle fois. Il a envoyé à notre époque un grand prophète instructeur. À travers Gabriel, la messagère et prophétesse de Dieu, le christianisme des origines a repris vie. À travers elle, un puissant courant, le christianisme des origines, la vie véritable en parole, mais également en acte, s'écoule dans le monde entier.
Et que dit la vie véritable, Dieu, à propos de la vie de l'âme après la mort du corps physique? Nous continuons à lire. Les êtres humains sont des êtres spirituels incarnés. Nous portons en nous une âme, et au plus profond de cette âme, l'être divin qui vient de Dieu. Où se rend l'âme à la mort du corps physique? C'est là une question essentielle, à laquelle la plupart des gens n'ont aucune réponse claire. Il suffit de lire les avis de décès dans les journaux pour constater à quel point l'humanité patauge face à cette question. Que se passe-t-il après la vie sur Terre? Certains pensent que l'on se rend directement auprès de Dieu. D'autres croient que la mort est suivie d'un repos éternel et que l'existence de la personne décédée se poursuit sans aucune souffrance. D'autres encore se disent que la vie des êtres humains ne se poursuit que dans les actes qu'ils ont accomplis ici-bas ou dans le souvenir de leurs descendants. En fait, on ne sait tout simplement pas. Grâce à la prophétie divine donnée à l'époque actuelle, nous savons ce qui se passe vraiment après la vie sur Terre. Nous ne faisons que passer d'un état à un autre. Notre âme continue à vivre. Elle continue à vivre telle qu'elle a vécu sur Terre, avec toutes ses caractéristiques positives et négatives. En effet, elle les emporte dans l'au-delà et se retrouve confrontée à la question de savoir ce qu'elle veut en faire. Souhaite-t-elle continuer à se développer dans les mondes de l'au-delà? Ou bien veut-elle prendre sur elle de s'incarner à nouveau dans le but de se purifier plus rapidement?
Le monde de l'au-delà, dans lequel les âmes peuvent séjourner, est composé de systèmes solaires partiellement densifiés, c'est-à-dire de mondes partiellement matériels, de matière plus subtile. Les âmes habitent dans ces mondes de matière plus subtile, bien au-delà de notre cosmos matériel. À la mort du corps physique, l'âme se rend dans l'un des plans de purification, dans l'un des systèmes solaires de matière plus subtile. En fonction du contenu des enveloppes actuellement actives dans l'âme, autrement dit, des habits de l'âme qui sont actifs, elle est automatiquement attirée, comme par un aimant, vers les planètes où ses attitudes erronées, ses comportements négatifs, sont enregistrés et actifs. Peut-être que vous vous demandez comment se sont formés ces plans de purification, ces mondes de matière plus subtile. Pourquoi la densification a-t-elle eu lieu? Comment la matière grossière s'est-elle formée? Voici les explications données par la sagesse divine. Dieu est amour, et lorsque la chute débuta, il donna aux êtres déchus des parties d'astres spirituels qui s'enveloppèrent alors des énergies dégradées de la chute. À la suite de leur détachement de l'existence éternelle, elles devinrent les mondes de la chute. À cette époque, La densification de la matière n'avait pas encore eu lieu. Dans ces mondes de la chute vivaient les êtres qui s'étaient détournés de Dieu. À plusieurs reprises, des messagers de lumière se rendirent auprès des êtres déchus dans le but de les ramener à Dieu. Beaucoup d'entre eux ne retournèrent pas à lui parce qu'ils persistaient à vouloir être à l'égal de Dieu. De ce fait, ils se densifièrent de plus en plus. Cet éloignement croissant de leur héritage divin mena très progressivement à une densification plus forte des astres. Il en résulta des planètes et des systèmes solaires de matière grossière allant jusqu'au niveau de densification de la matière de la Terre, qui est le domaine d'habitation des êtres humains, la base des âmes chargées. L'être humain n'est donc rien d'autre que l'habit de l'âme, un habit constitué de plusieurs couches, une densification dont le rayonnement correspond aux enveloppes chargées de l'âme. C'est la raison pour laquelle chacun possède un caractère très différent. Comparé à l'éthique suprême de l'existence cosmique éternelle, les valeurs morales de l'être humain sont d'un niveau extrêmement bas.
Nous poursuivons la lecture.
Après la mort du corps, l'âme se rend donc dans les domaines de l'au-delà. Si compte tenu de ses lourdes charges, elle se rend dans des plans de purification inférieurs, elle se trouve encore dans la roue de la réincarnation. Si par contre l'âme est devenue plus lumineuse, elle l'a alors dépassée et s'élève vers des plans supérieurs, où elle pourra avancer peu à peu vers la maison du Père éternel. Tout le monde sait qu'aucune énergie ne se perd. En conséquence, ni l'énergie de nos pensées positives, ni celle de nos pensées négatives ne se perdent. Pas plus que celle de nos paroles, de nos actions, de tout notre comportement. Puisque toute énergie positive ou négative a un effet, ces énergies marquent notre âme. Cette gravure énergétique reste dans notre âme également après la mort du corps physique. L'âme est enveloppée de toutes ses empreintes. Nous nommons ces enveloppes les habits de l'âme.
Et qu'en est-il dans l'au-delà? Peut-on également y purifier son âme, c'est-à-dire régler, mettre en ordre nos fautes et apprendre quelque chose? Comment cela se passe-t-il? Dans le texte de l'enseignement, nous lisons la réponse suivante. Dans les plans de purification où se rend l'âme du défunt, c'est l'habit de l'ordre, le premier habit de l'âme, qui est activé en premier. Le manque d'ordre en nous rayonne et veut être réglé. L'âme est régulièrement rendue attentive à cet habit, à ses charges. Elle se meut dans cet habit jusqu'à ce qu'elle prenne conscience qu'il lui est possible de s'en libérer. Des êtres divins, des frères et des sœurs spirituelles pures, instruisent l'âme et l'aident à se libérer de ses différents habits, de ses différentes gravures, ses aspects pécheurs de nature humaine. Plus l'âme s'efforce de se libérer de ses habits dans les plans de purification, plus elle s'allège et devient lumineuse. Elle décide alors de poursuivre son processus de purification dans les plans de purification ou bien de s'incarner une nouvelle fois pour se libérer plus vite de certains restes d'aspects pécheurs qui pourraient éventuellement être mis en ordre plus rapidement sur la Terre. Il est également possible qu'elle ne veuille ni accepter ni croire ce qui lui est montré et expliqué dans les plans de purification et qu'elle souhaite retourner sur Terre vers laquelle elle se sent attirée. Elle le pourra lorsque sera conçu un corps humain correspondant à ses enregistrements, aux gravures actuellement actives en elle. L'âme porte différents habits, différentes charges, mais ce qui l'attire à nouveau vers la terre, c'est ce qui est actuellement actif en elle. Pour cette prochaine incarnation, une matrice est déjà préparée dans l'univers. Cette dernière est composée des différents aspects enregistrés par l'être humain et montre à quoi ressembleront l'âme ainsi que son parcours dans sa nouvelle existence terrestre.
Autrement dit, au cours de notre vie actuelle, nous dessinons déjà, pour ainsi dire, le corps et le chemin que nous prendrons lors de nos éventuelles incarnations futures. Il en est tout particulièrement ainsi lorsque, dans le temporel, l'être humain ne purifie pas son âme, mais au contraire, agit constamment contre la loi de l'amour, de la liberté, de l'unité et de la fraternité. Dans ce cas, cette matrice se constitue, c'est-à-dire que, dans l'univers matériel, sur un plan énergétique, un corps se forme pour une prochaine incarnation. Chers amis, c'est sur ces explications riches et profondes, données par la sagesse divine, que se termine notre émission d'aujourd'hui. Nous nous réjouirions de vous retrouver pour la troisième partie de cette série. Dans cette dernière émission, nous en apprendrons davantage encore sur la façon dont Dieu nous aide à sortir de la roue de la réincarnation. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne continuation. Au revoir et une chaleureuse salutation en Dieu.